VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Bion, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Impeachment aux États-Unis, première audition publique le 13 novembre. Trois diplomates américains ayant fait part de leur inquiétude sur la position adoptée par Donald Trump dans ses échanges avec l'Ukraine seront auditionnés publiquement par le Congrès la semaine prochaine dans le cadre de l'enquête pour destitution visant le président républicain Ron Johnson.
La Chambre des représentants a donné jeudi dernier son feu vert à la poursuite de la procédure de destitution contre Donald Trump en définissant les règles des auditions publiques à venir au Congrès, cherchant ainsi à neutraliser l'argument invoqué par les républicains selon lesquels la procédure était illégitime sans vote en séance plénière à la Chambre. Face à cette procédure, la Maison-Blanche a prévu de recruter deux conseillers dans le but d'adopter une stratégie de défense de Donald Trump plus offensive, a déclaré mercredi un haut représentant de l'administration. Il a ajouté que la présidence américaine avait débuté une enquête interne sur les événements entourant l'entretien téléphonique du 25 juillet dernier entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, entretien qui a provoqué le déclenchement de l'enquête. C'est un membre des services du renseignement américain qui a lancé l'alerte sur cette conversation téléphonique, soupçonnant le président américain d'avoir fait pression sur Kiev pour servir ses propres intérêts politiques.
Élection partielle mardi dans 4 États de l'Union. Pour la première fois en 25 ans, les démocrates ont repris le contrôle de deux chambres de l'Assemblée de la Virginie. Dans le Mississippi, le candidat républicain Ted Reeves a remporté le poste de gouverneur. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Washington l'analyse politique James Caesar.
Les élections locales pendant ces années-là, ils sont en effet locales. Donc le problème est de déterminer quelle est la tendance nationale et quelle est la tendance plutôt locale. Je dirais que ces résultats-là sont plutôt locaux, surtout quand on considère la course pour Kentucky. Là, je trouve que les raisons pour la défaite du gouverneur républicain sont plutôt des raisons locales. Alors le résultat est très étroit, mais quand même, il n'était pas lui-même populaire. Et vous trouvez que les autres élections, pour les autres positions en Kentucky, les résultats sont pour les républicains. En Virginie, alors c'était une course pour la branche législative. Là, c'est ce qu'on trouve que Virginie est en train d'évoluer. Et de plus en plus, c'est un État démocrate. Ce sont pour des raisons démographiques, la croissance de la région autour de Washington, etc. Alors, pour l'avenir, on peut dire que la tendance en Virginie sera pour les démocrates. En Mississippi, là, le candidat pour le gouverneur républicain, il a emporté la victoire.
Il y en a qui veulent attribuer cette défaite au président Trump, notamment. Ce n'est pas tout à fait vrai.
Oui, ce n'est pas tout à fait vrai. Ça joue un rôle, bien sûr. Et Trump est allé à Kentucky pour dire qu'il faut soutenir le candidat républicain. Donc, il y a une dimension nationale. Mais si on suit les sondages, etc., la politique locale, la politique locale prime dans ces années sur la dimension nationale. Ça, c'est assez sûr. Surtout en Virginie, où ça n'a rien à voir vraiment avec la direction générale du pays. C'est une évolution, comme j'ai dit, de la tendance de l'État de Virginie.
Dans quelle mesure ces résultats des élections locales peuvent influencer les élections générales?
Vous parlez de l'élection l'année prochaine?
C'est ça.
Oui, les journalistes parlent un peu de ça, mais finalement, je n'ai pas l'impression que ça va jouer un rôle très, très important. Comme je disais, le résultat en Kentucky est déterminé par la popularité du gouverneur. Et Kentucky va certainement, l'année prochaine, va certainement voter Trump. Mississippi va voter Trump et Virginie va certainement voter pour le candidat démocrate. Donc, ces trois États, le rôle pour l'année prochaine est déjà fixé.
Voilà, James Caesar, analyste politique à Washington. Le président turc Recep Tayyip Erdogan va bien se rendre la semaine prochaine aux États-Unis pour rencontrer son homologue américain Donald Trump avec lequel il s'est entretenu mercredi, a annoncé la présidence turque en pleine tension entre leurs deux pays. Dans un entretien téléphonique mercredi, les deux dirigeants ont confirmé qu'ils se verraient à Washington. Ce 13 novembre, à l'invitation du président Trump, a fait savoir à la présidence Et depuis plusieurs jours, M. Erdogan menaçait d'annuler sa visite en raison de tensions entre la Turquie et les États-Unis liées notamment à la Syrie et à un vote de la Chambre des représentants sur le génocide arménien. Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie, réunis mercredi à Washington, se sont donnés jusqu'à janvier 2020 pour trouver un accord sur un projet d'immense barrage sur le Nil Bleu qui suscite des tensions entre leurs pays. Les émissaires ont été reçus par le président américain Donald Trump qui a dit vouloir aider à résoudre la dispute ancienne concernant le barrage éthiopien de la Renaissance, l'un des plus grands au monde qui est en train d'être construit. Et puis l'Iran a repris jeudi ses activités d'enrichissement d'uranium à l'usine souterraine de Fordo, selon un communiqué de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. La reprise de l'enrichissement à Fordo avait été annoncée mardi par le président iranien Hassan Rouhani au lendemain de l'expiration d'un délai donné par Téhéran aux autres parties à l'accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015. La Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Allemagne, pour qu'elle l'aide à surmonter les conséquences du retrait des États-Unis de ce pacte en 2018 et du rétablissement de sanctions américaines. À Kinshasa, au Congo, en RDC, il est 12h06.
Nos infos sur voaafrique.com.
La Cour pénale internationale, la CPI, a condamné aujourd'hui l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda à une peine de 30 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, la peine la plus lourde jamais prononcée par la juridiction basée à La Haye. Citant des crimes multiples dont l'esclavage sexuel et la persécution, le juge Robert Fremer a déclaré lors d'une audience que la peine imposée à M. Ntaganda est ainsi fixée à 30 ans d'emprisonnement. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a donné 48 heures au gouvernement de Faustino Mbali pour démissionner sous peine de lourdes sanctions. Le président sortant José Mario Vaz a limogé le 28 octobre le premier ministre bissau-guinéen Aristide Gomes et son gouvernement avant de nommer le lendemain Faustino Mbali avec une équipe de 17 ministres et 14 secrétaires d'État. La CEDEAO a estimé cette mesure illégale. On écoute Blaise Diplo, le représentant à Bissau de la CEDEAO.
La mission d'évaluation de la situation politique du 3 novembre, le comité ministériel lance une dernière fois un appel solennel à tous ceux qui ont été abusivement entraînés dans le gouvernement illégal de M. Faustino Mbali, afin qu'ils démissionnent et les invite à prendre leur distance par rapport à toutes les initiatives visant à compromettre les prochaines élections présidentielles et à porter atteinte aux institutions légales de la Guinée-Bissau. Les gens qui seraient tentés ou qui sont dans le mouvement disposent encore de 48 heures pour faire connaître leur décision de démission. Au-delà du jeudi 7 novembre, ils seront passibles de lourdes sanctions qui seront prises à leur encontre par le sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu à Niamey, au Niger, le 8 novembre 2019.
Blaise Diplo, représentant à Bissau de la CEDEAO. Quelque 941 000 Mauriciens sont aux urnes depuis ce matin pour un scrutin législatif à l'issue duquel le premier ministre sortant, Pravind Jugnauth, espère obtenir l'onction populaire 2 ans après avoir succédé à son père sans élection. Les précédentes élections en 2014 avaient été remportées par la coalition menée par Anirudh Jugnauth, ce classique de la vie politique mauricienne, plusieurs fois premier ministre et président de la République de 2003 à 2012, est resté chef du gouvernement jusqu'en 2017. Il a alors choisi de passer la main à son fils Pravind, héritant du poste en tant que chef du mouvement socialiste mauricien, le principal parti de la coalition au pouvoir. Le dépouillement va commencer demain vendredi et les résultats devraient être connus en fin de journée. Et puis le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar doivent se rencontrer aujourd'hui en Ouganda pour discuter de questions cruciales, notamment sécuritaires, à quelques jours de la date prévue pour la formation d'un gouvernement d'union ont annoncé les deux camps. La rencontre doit avoir lieu dans le cadre de la médiation menée par l'organisation régionale IGAD, médiation dont le président ougandais Yoweri Museveni est un acteur clé. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochain journal dans 50 minutes, vous retrouverez Marie-Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.